pays de toi de l'homme, il n'y a pas d'égalité. Difficile à dévoluer. Bonjour et bienvenue dans l'émission Joy au pays des droits de l'homme. L'émission explore les dimensions juridiques et philosophiques de la doctrine des droits de l'homme. C'est un corpus de textes qui dépend des conventions internationales telles que la Convention européenne des droits de l'homme et les pactes de jumeaux de l'ONU sur les droits civiques et politiques et les droits économiques et sociaux. Une récente décision de la Cour européenne des droits de l'homme intéresse tout particulièrement la communauté juive, car elle traite de la question de l'abattage rituel. Dans une précédente émission, nous avions évoqué ce sujet avec le représentant des rabbins européens, Mendel Sermama. Cette fois-ci, il s'agit d'un arrêt opposant une organisation musulmane et la Belgique sur la question de savoir si la marge nationale d'appréciation n'allait pas à l'encontre de la liberté religieuse protégée par l'article 9. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir l'avocat Bernard Alexandre, associé chez Alexandre Lévy-Kahn Braun. Maître Bernard Alexandre, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes avocat à Strasbourg depuis 1988. D'où vient votre intérêt pour le droit initialement?
C'est toujours difficile de trouver la source. Je dirais que si j'avais un raisonnement simpliste, je dirais mon père était avocat, ma mère a été professeur de droit toute sa vie, donc je suis tombé dedans peut-être, c'est l'explication la plus simple.
Okay. Quels sont les domaines du droit dans lesquels vous pratiquez?
Je suis dans un cabinet qu'on appelle communément cabinet de droit des affaires, c'est notre activité vraiment principale, mais on n'a jamais voulu se couper aussi de la vie civile, de la vie de la cité, donc... On élargit les domaines et quand on s'occupe d'entreprises, on s'occupe aussi des chefs d'entreprise et il y a leur vie privée. Ça veut dire qu'on peut faire aussi du droit de la famille par excroissance en quelque sorte. Mais notre base, c'est le droit des affaires.
Okay. Alors, comment votre pratique a-t-elle évolué au fil des années?
Je dirais que j'ai toujours exercé avec la même conviction. J'aime le droit et c'est le caractère intangible de ma pratique. Tout passe par le droit. On est là pour appliquer la règle et en tous les cas pour la défendre dans l'intérêt de nos clients. C'est plutôt la pratique du droit et pas ma pratique qui a évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'exerce plus comme on exerçait à mes débuts. Vous avez rappelé l'ancienneté de mon exercice. À l'époque, toutes les affaires se plaidaient longuement, il n'y avait pas Internet. Voilà, je donne peut-être l'impression d'être un homme préhistorique, mais on revient de loin. Et donc aujourd'hui, l'écrit a pris une place prédominante, les échanges se sont accélérés parce que les moyens technologiques se sont accélérés. Donc il y a peut-être moins de réflexion, on est moins posé parce qu'il faut aller au rythme de la vie technologique. Et en même temps, on a accès à des informations extraordinaires, une masse d'informations qu'on n'avait pas, mais début d'exercice, on allait chercher dans des livres, dans les bibliothèques. Aujourd'hui, avec des mots-clés, on a une masse d'informations extraordinaires. Donc globalement, c'est un progrès, même si on peut avoir la nostalgie des temps passés sur certains aspects plus posés, plus intellectuels de la matière.
Ok, alors vous pratiquez le droit des affaires, mais vous avez un intérêt pour les libertés publiques et les droits de l'homme. Pouvez-vous nous en dire plus?
C'est vrai que c'est un domaine qui m'a toujours intéressé. D'abord parce que je suis avocat, mais je suis un homme, et inséré, comme je le disais avant, dans la vie de la cité. Donc les droits de l'homme, c'est un peu le fil rouge. Le droit des affaires a aussi des incidences sur les droits de l'homme. Il y a le droit de propriété, par exemple, qui est défendu par la Convention européenne des droits de l'homme. Donc le droit de propriété, en matière de droit des affaires, c'est un sujet qui a son importance. Mais intellectuellement, c'est passionnant, d'abord parce que ce sont des règles fondamentales et qu'il faut toujours être soucieux de les protéger, mais aussi parce que cette Convention européenne des droits de l'homme repose sur des raisonnements et sa jurisprudence développée par la Cour européenne des droits de l'homme a des fondements juridiques, des raisonnements juridiques qui diffèrent des raisonnements de nos juridictions nationales. C'est une autre façon de raisonner. Et quelque part, c'est intéressant de pouvoir un peu élargir la méthode de réflexion et d'application de la règle de droit.
Okay. J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur l'affaire portée devant la Cour européenne des droits de l'homme par les requérants musulmans et juifs dans l'arrêt exécutif Van de Moslim van België et autres contre la Belgique du mois de février 2024. Mais avant cela, je vais demander à Raphaël Kaufmann, producteur de l'émission et juriste de formation, d'introduire le sujet sur le plan technique pour poser des termes du débat.
Maître Alexandre, bonjour. Bonjour. Alors, une fois n'est pas coutume, et afin de mieux comprendre votre intervention sur le plan juridique, nous allons prendre 5 minutes pour expliquer à nos auditeurs les propos du vétérinaire et grand rabbin Fison, qui travaille sur cette problématique depuis plus de 15 ans. La situation d'aujourd'hui, c'est que certains pays veulent imposer aux juifs et aux musulmans l'étourdissement de l'animal avant de lui trancher la gorge. Et il existe essentiellement 2 méthodes d'étourdissement s'agissant des animaux qui sont consommés par les juifs et les musulmans. D'abord, l'étourdissement électrique, qui s'appelle l'électronarcose en termes techniques. Il s'agit d'une électrocution de l'animal à l'aide d'un courant électrique qui traverse le cerveau ou le cœur de l'animal. Ensuite, l'étourdissement par percussion. Là, il s'agit d'une perforation violente de la boîte crânienne à l'aide d'un pistolet pneumatique ou d'un marteau. Généralement utilisée, cette méthode, pour les gros bovins. Alors, quel est le problème? Ces méthodes d'étourdissement entraînent des lésions qui sont considérées comme létales et à terme, elles entraînent la mort de l'animal. L'animal devient donc, en termes de droit hébraïque, tréfa. Il n'est plus viable et par conséquent, il n'est plus cachère. L'abattage rituel juif, quant à lui, provoque la rupture notamment des deux carotides et donc une hémorragie massive, une perte de connaissance rapide et il supprime l'influx nerveux au niveau des neurones. Une étude récente de l'Institut national de la recherche agronomique estime, et c'est pour apporter un peu un contexte statistique, que le taux d'échec de l'abattage rituel juif et musulman confondu, bien qu'il y ait une différence entre les deux du point de vue du pourcentage, mais si on les assemble, ce taux d'échec de l'abattage rituel est considéré de 17%, ce qui correspond en valeur absolue à 5000 bêtes sur les 30000 bêtes cachères qui sont abattues par an. Le taux d'échec de la performance de la boîte crânienne, quant à lui, est très voisin puisqu'il est de 16%, ce qui correspond à peu près à 480 000 bêtes sur 3 millions au total abattus en France en 2022. En Nouvelle-Zélande, des travaux estiment le taux d'échec de l'électrocution de l'animal, donc la seconde méthode, entre 10 et 50%, donc une grande variabilité, et il s'agissait d'une étude sur les moutons. Un échec de l'étourdissement donc conventionnel induit une souffrance animale avérée et une conscience totale ou partielle jusqu'à la saignée qui interviendra seulement plusieurs minutes plus tard. Ce n'est pas un problème récent cependant puisque le régime nazi a imposé en 1934 l'abattage avec étourdissement, officiellement par égard pour la souffrance animale, bien entendu. Chacun appréciera la macabre ironie de cette motivation. Les gouvernements français ont quant à eux toujours protégé l'abattage rituel, y compris auprès des instances européennes. Ce n'est pas le cas, cependant, de la Suède, du Danemark, de la Slovénie. En Belgique, si le Parlement bruxellois a décidé de ne pas interdire l'abattage rituel, en revanche, le Parlement wallon et le Parlement flamand ont décidé d'interdire l'abattage rituel traditionnel. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon de présenter la situation ?
Oui, c'est une présentation technique qui est intéressante. Il faut comprendre qu'il y avait un peu un débat dans le débat dans cette affaire. Le débat dans le débat, c'est de savoir si l'abattage avec étourdissement réversible est conforme aux règles de la cacheroute. C'est un débat technique, mais je le dis tout de suite, la Cour européenne n'a pas voulu rentrer dans le débat. C'est-à-dire qu'elle a acté qu'il y avait un débat rituel, un débat religieux sur les règles qui vient du fait que certains disent si l'étourdissement est réversible, c'est compatible, et d'autres disent non.
Alors, qu'est-ce qu'est la réversibilité de l'étourdissement ?
Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste, j'essaye, sans me proclamer spécialiste, de m'intéresser de près au droit. Là, sur les méthodes d'abattage, mes compétences sont largement plus limitées. Mais je crois que ce qui est intéressant dans ce débat, c'est que que voulaient faire les pouvoirs régionaux flamands et wallons, parce que ce sont des règles régionales, c'est assez particulier dans l'organisation belge, c'est que réformant une ancienne loi nationale, ils ont voulu limiter la possibilité. En réalité, ils ont voulu exclure une dérogation qui existait dans l'ancienne loi. On disait on ne peut pas abattre sans étourdissement préalable, sauf pour l'abattage rituel. Ça, c'était l'état de la législation nationale belge. Et lorsque les gouvernements régionaux wallons et flamands se sont intéressés au sujet, ils ont voulu supprimer, en fait, cette dérogation. Et ils l'ont fait au terme d'un processus dont on constate, à la lecture de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, que ça a été un processus très travaillé, c'est-à-dire qu'il y a eu de longues réflexions, des études, des confrontations, des débats, et ils ont essayé, disent-ils, et c'est un peu ça le débat, de trouver un compromis, en disant, on va imposer un étourdissement, mais qui est un étourdissement réversible, qui, selon une interprétation en tous les cas, pourrait être compatible avec le rituel. Et donc, c'est ça, cet équilibre qui a été recherché. Mais après, se greffe un débat religieux dans lequel la Cour ne rentre pas.
Ok. Alors, pouvez-vous nous résumer les faits et les caractéristiques des différents référents ?
Bon, on peut résumer le sujet. Je l'ai dit d'un mot, mais je repose le sujet. En fait, la question est de savoir si on devait réformer une règle qui existait depuis 40 ans en Belgique et qui était d'admettre une dérogation pour ce qui relève du rituel, que ce soit pour les musulmans ou pour les juifs. Il est d'ailleurs frappant et presque réconfortant dans ces temps difficiles de constater que les requérants étaient un groupe à la fois des associations non gouvernementales et des requérants individuels qui étaient juifs et musulmans et qui étaient dans une démarche commune, qui était la défense d'un rituel d'abattage. Les deux thèses qui s'affrontaient étaient de dire d'un côté, quand c'est rituel, on doit admettre que c'est protégé par la liberté de religion et donc le pouvoir législatif ne peut pas interférer là-dedans. L'autre règle était de dire qu'il y a une valeur supérieure qui permettrait cette ingérence dans la liberté de religion. Parce que le sujet de base, il est simple, c'est un problème d'application de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est assez simple dans son énoncé. Le principe, c'est la liberté de religion et la liberté de manifester sa religion et donc d'appliquer ses règles de sa religion. Mais il peut y avoir des dérogations, mais simplement, c'est toujours le même raisonnement dans la Convention européenne des droits de l'homme et dans d'autres textes qui protègent les droits de l'homme. Il peut y avoir une ingérence, c'est-à-dire une restriction apportée à ce droit, mais cette restriction, elle doit être limitée, justifiée et proportionnée. Voilà globalement la règle qui devait être appréciée à tâtons par la juridiction.
Ok. Alors, la Cour européenne des droits de l'homme a distingué la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et la Convention européenne des droits de l'homme s'agissant du bien-être animal. Donc, pouvez-vous rappeler aux auditeurs la différence entre les deux juridictions, de manière générale, et spécifiquement en ce qui concerne leur positionnement au sujet du bien-être animal ?
Oui, ce sont deux juridictions européennes. Une qui siège à Luxembourg, c'est la Cour de justice de l'Union européenne, et l'autre qui siège à Strasbourg, qui est la Cour européenne des droits de l'homme. Elle ne s'applique pas aux mêmes États et elle n'applique pas les mêmes textes. La Cour de justice de l'Union européenne, elle s'applique aux États membres de l'Union européenne et elle est chargée d'appliquer les textes qui régissent l'Union européenne, principalement le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et tous les textes qui en sont dérivés. La Cour européenne des droits de l'homme, elle s'applique à tous les États qui ont adhéré à la Convention européenne des droits de l'homme. Et elle applique un texte qui est la Convention européenne des droits de l'homme qui proclame un certain nombre de libertés publiques qu'elle est chargée de contrôler. Cette Cour européenne des droits de l'homme, c'est quelque chose d'assez extraordinaire dans la mesure où c'est une organisation, une juridiction internationale qui peut aller à l'encontre de lois nationales si elle porte atteinte à ces règles considérées comme des principes essentiels, fondamentaux, qui méritent une protection supérieure à celle que les lois nationales peuvent prévoir. C'est quand même, dans le système démocratique, quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, les États qui adhèrent à la Convention européenne des droits de l'homme admettent qu'une juridiction internationale puisse limiter son pouvoir, que ce soit un pouvoir normatif du gouvernement ou le pouvoir législatif, par des règles fondamentales qu'on estime de valeur supérieure. Alors, dans cette affaire, effectivement, ça n'arrive pas toujours. Les deux juridictions s'y sont intéressées parce que, dans les règles de l'Union européenne qui sont appliquées par la Cour de justice de l'Union européenne au Luxembourg, le bien-être animal, qui est en fait le sujet qui est au cœur de la question posée à la Cour européenne des droits de l'homme, le bien-être animal, c'est une notion qui est énoncée expressément dans les règles de l'Union européenne et en particulier dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il y a un texte spécifique, un article qui proclame le souci de préserver le bien-être animal. Dans la Convention européenne des droits de l'homme, ce principe du bien-être animal n'est pas affirmé. Et tout l'enjeu du procès, on va sans doute approfondir, c'était de savoir si la Cour européenne des droits de l'homme pouvait se saisir de cette question du bien-être animal pour écarter ou appliquer la règle qui était celle défendue par les autorités régionales belges.
Ok. Alors, la Cour européenne des droits de l'homme a donc affirmé qu'il ne s'agit donc pas, en l'espèce, d'effectuer une mise en balance de deux droits d'égale valeur au regard de la Convention. En évoquant le droit de l'animal et le droit de chacun de manifester sa religion, comment la Cour a-t-elle justifié cette affirmation?
Alors, la Cour, c'est important de le rappeler, elle tient un raisonnement en deux étapes. Elle commence par dire, et c'était important parce que ce n'était pas acquis, elle dit « l'abattage rituel relève de la liberté de religion ». C'est important parce qu'on aurait pu dire « c'est une question technique, mais ça, on ne porte pas atteinte à la liberté d'exercer, de manifester sa religion ». Et dans une affaire un peu plus ancienne de 2000, la Cour européenne des droits de l'homme avait considéré, c'était un requérant qui voulait être agréé pour faire un abattage vraiment orthodoxe sur des méthodes, même après la mort de l'animal, une vérification post-mortem, c'est une question technique. Et la Cour européenne avait dit « ce n'est pas là une atteinte à la liberté de religion, ça devient une question un peu technique qui n'est pas une atteinte au principe ». Ici, la Cour européenne des droits de l'homme dit « c'est à la base une atteinte à la liberté de religion », c'est-à-dire on restreint les conditions d'abattage telles que le rituel veut qu'elles soient appliquées. Mais ensuite, c'est toujours ce double raisonnement, la Cour vérifie si cette atteinte est justifiée, légitime et proportionnée. Et c'est là où elle dit, dans le texte de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, les ingérences autorisées reposent notamment sur la préservation de la morale publique. Et donc, c'est ça l'aspect extrêmement novateur de cet arrêt. La Cour européenne des droits de l'homme va dire « la préservation du bien-être animal relève en l'état de nos sociétés démocratiques, des États membres adhérents à la Convention européenne des droits de l'homme, relève de la morale publique telle qu'elle est couramment appréciée dans nos sociétés actuelles. » Et donc, ce rattachement du bien-être animal, qui n'est pas encore une fois énoncé dans le texte, mais ce rattachement à la notion générale qui est dans le texte de la morale publique, permet de dire la morale publique est une dérogation prévue par l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme et le bien-être animal relève de la morale publique. Et je vais vérifier si cette atteinte fondée sur la morale publique est proportionnée à l'objectif à atteindre qui est de préserver la liberté de religion.
D'où l'application de l'article 2, alinéa 2. Avec les limites possibles à la liberté de religion. Alors, quelles sont ces limitations et comment la Cour justifie-t-elle leur application?
Mais c'est une balance à faire. Donc la balance a été faite. Je veux dire, alors c'est pas un arrêt, il faut le dire d'un mot parce que ça devient un peu technique. C'est pas encore une décision définitive parce que ce type de décision qui a été rendue par une chambre et pas par la grande chambre. Alors c'est un peu technique, mais pour le dire simplement, il peut y avoir encore une forme de recours qui permettrait peut-être de rediscuter la question. Mais on voit bien que les juges ont été unanime, même si des opinions conformes mais formulées autrement ont été adjoints à l'arrêt. On sent qu'il y a une position qui est assez marquée de la Cour européenne des droits de l'homme, sans doute influencée par la décision qu'avait rendue antérieurement la Cour de justice de l'Union européenne, puisque dans le processus, comme toujours dans ce type d'affaires, le problème est d'abord soumis aux juridictions nationales. Il faut avoir soumis entièrement le problème aux juridictions nationales. Mais les juridictions nationales belges avaient elles-mêmes interrogé la Cour de justice de l'Union européenne, comme elles peuvent le faire à ce qu'on appelle à titre préjudiciel. Et la Cour de justice de l'Union européenne avait dit « le bien-être animal justifie l'atteinte ». Elle était aidée par un texte qui défend expressément le bien-être animal dans les règles de l'Union européenne. Et là, la Cour européenne n'a pas... Enfin, c'était compliqué pour elle, je dois dire, de se mettre en défaut par rapport à la Cour de justice de l'Union européenne, même si ce sont deux juridictions indépendantes. Et ce qu'il fallait, c'est qu'elle trouve l'idée qui permettait de rattacher le bien-être animal à une valeur et un principe défendu par la Convention européenne des droits de l'homme. Et la transition, c'est la morale publique. En fait, ce qui est intéressant dans cette décision, c'est que la Cour européenne dit... Les notions qui sont celles de la Convention européenne des droits de l'homme, elles sont amenées à évoluer avec l'évolution de nos sociétés. C'est ce qu'on appelle la plasticité de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle n'est pas figée. Et là, c'est vrai que la notion de morale publique, la notion philosophique de morale publique, elle évolue nécessairement avec nos sociétés. Donc, je pense que le bien-être animal, il y a 50 ans, on ne s'en souciait pas de la même façon. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est manifestement un souci... assez collectif des sociétés actuelles, et donc ça a permis de faire ce rattachement. La morale publique doit être préservée et doit être équilibrée avec la liberté de religion, et le bien-être animal est un point d'équilibre à trouver.
Alors si je puis me permettre, il y a peut-être une contradiction là intéressante, c'est-à-dire que la Convention européenne des droits d'homme est venue manifester des règles qui sont considérées comme intangibles et même supérieures aux autorités nationales. D'une certaine manière, c'est une petite entrave au principe démocratique. Et cependant, le concept de morale, morale civile ou morale publique introduit une grande, vous l'avez dit, plasticité, une flexibilité, et qui, voilà, il y a une dynamique très forte qui peut, c'est presque une brèche qui peut presque, à la limite, si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, vider le texte et la convention de son sens. On pourrait aller jusque-là.
Alors, soit on considère que ça le vide son sens, et c'est un sujet de débat, soit on considère que ça lui donne une force. C'est-à-dire, la Cour européenne, elle fait une démarche qui est un peu paradoxale, voire contradictoire. C'est-à-dire, elle dit dans son arrêt, assez précisément, qu'on est dans un domaine où les autorités nationales doivent garder une large marge d'appréciation. Il y a des domaines où la Cour dit « c'est nous les gardiens du temple et c'est nous qui devons apprécier très précisément ». Et puis il y a d'autres domaines qui sont plus sujets à la discussion, dans lesquels elle dit « nous, on est un peu subsidiaires ». C'est-à-dire, on veille à la préservation de l'essentiel, mais pour le reste, on laisse une marge d'appréciation. Donc, elle dit « on est dans un domaine où les autorités nationales, ou ici régionales, belges, avaient cette marge large d'appréciation ». Mais il faut quand même qu'elle vérifie la proportionnalité. Et donc, c'est ce travail qu'elle fait en considérant que... En fait, elle dit deux choses. Elle dit « l'étourdissement réversible est une forme de compromis ». Alors, des gens beaucoup plus autorisés que moi viendraient dire « c'est pas un compromis parce qu'en réalité, l'étourdissement même réversible n'est pas conforme à nos règles rituelles ». C'est défendu manifestement par certains, avec, semble-t-il, un vrai débat, y compris dans la communauté juive, sur cette question. Mais face à ça, la Cour européenne des droits de l'homme, elle va rechercher le point d'équilibre qui fait qu'il n'y a pas une entrave définitive à l'exercice de sa pratique religieuse. Et ce qu'elle note dans sa décision, c'est que les autorités régionales belges ont effectivement interdit l'abattage, même rituel sans étourdissement préalable, mais elles n'ont pas interdit l'approvisionnement en viande qui aurait pu provenir d'un abattage sans étourdissement.
S'agissant d'importations intra-européennes.
C'est ça. C'est-à-dire que le fait que l'on puisse importer en Belgique, parce qu'on aurait pu aller jusqu'à dire « et j'interdis l'importation de viande dont il ne serait pas justifié qu'elle respecte les règles que l'on veut appliquer en Belgique ». Mais elle dit « dans la mesure où les gens, les personnes qui veulent appliquer leur religion peuvent encore consommer de la viande qui sera importée, certes, mais qui sera conforme aux règles d'abattage les plus strictes, eh bien, fait que la liberté de religion est préservée. »
Ok. Alors, dernière question. Au-delà des questions purement juridiques, peut-on dire que nous assistons à une manifestation de choc des civilisations en Europe ? D'un côté, les défenseurs d'une certaine conception du bien-être animal qui vient d'être érigée au même niveau que les droits de l'homme, et d'un autre côté, les défenseurs de la liberté de culte.
Oui, c'est une question qui se pose. Il y a eu au sein de la communauté juive des réactions marquées. Le grand rabbin de France a indiqué que c'était une atteinte forte et inquiétante à la liberté de religion. Je comprends parfaitement le débat. Si l'on est adepte d'un abattage rituel sans aucun étourdissement préalable, qu'on le qualifie de létal, de réversible ou pas, je comprends que pour eux, c'est une interpellation forte. Ce qui est sûr, c'est que tant qu'il y aura une possibilité d'approvisionnement, chacun pourra pratiquer sa religion comme il l'entend. On n'en est pas au stade à ce jour, parce que vous l'avez rappelé, il y a divers États, dont la France, qui accepte encore l'abattage rituel tel que notre communauté l'envisage. Donc, la liberté, elle n'est pas, je dirais, à ce stade fondamentalement atteinte, mais elle est entravée. Et il faut bien admettre que si les États, les uns après les autres, appliquent la même règle, il y aura à un moment donné un problème de pratique de son rituel tel qu'on souhaite le pratiquer. Donc les enjeux à ce jour ne sont pas aussi inquiétants que cela à mon sens, mais pour les adeptes de l'abattage rituel strict, on peut considérer qu'il y a une mise en danger.
Okay. Maître Alexandre, merci d'être venu nous éclairer sur ce sujet.
Merci à vous.